Les symptômes. Pourquoi? Pour quelle raison? Les symptômes ont-ils une utilité? Vous avez mal, mais savez-vous pourquoi? Parce que vous êtes en manque. Et en manque de quoi? De lui, d'elle, de votre partenaire. Les mots disent bien ce qu'ils veulent dire. Vous êtes en manque. Réellement, de manière réelle et concrètement. Mais en manque de quoi précisément? Et comment combler ce manque? Est-ce seulement possible alors que l'autre est parti et que ce manque persiste? Passer de la vie à deux à une solitude subie, non préparée et non choisie, crée un état de manque. Un état de manque de l'autre, de cette vie à deux et de toutes ces habitudes prises en commun. Vous êtes physiquement en état de manque, tel un drogué en manque de sa dope ou du fumeur en arrêt du tabac. Et votre corps réclame son shoot, quasiment au sens propre. Aussi devez-vous vous sevrer. Et cela fait mal, et cela prend du temps. Alors oui, vous avez très mal, et c'est normal. Lorsque vous étiez à deux, vous viviez sous le même toit. Vous partagiez quantité d'informations au sens large, telles que des informations affectives, émotionnelles, intellectuelles, physiques. Et votre cerveau fonctionnait en binôme. Il sécrétait les neurotransmetteurs, notamment de la communication, de la vie à deux et du partage. Et votre cerveau fonctionnait dans ce bain hormonal résultant du fonctionnement à deux. Le mécanisme d'ajustement du cerveau. Maintenant, votre cerveau va devoir s'ajuster à la nouvelle situation post-rupture. Lorsque l'être aimé s'en va, vous ne fonctionnez plus à deux, vous êtes seul, ce qui engendre forcément de nouvelles habitudes à mettre en place et votre cerveau va s'ajuster à ce nouvel environnement. Votre corps psychique, vos corps psychiques, émotionnels, physiques, intellectuels vont devoir s'adapter à ce nouvel environnement. La sagesse populaire nous rappelle « le temps guérit toutes les blessures ». Parce qu'il faut du temps au cerveau pour que de nouvelles connexions neuronales se créent entre les neurones. La fameuse plasticité cérébrale est en plein boom, en pleine activité maximale. La ressource incontournable pour créer une nouvelle habitude. La sagesse populaire, comme les maîtres spirituels, ont déjà remarqué qu'il fallait laisser du temps au temps. Précisément 3 semaines, 21 jours, pour qu'une nouvelle habitude s'inscrive naturellement dans nos gestes quotidiens. 21 jours pour qu'une nouvelle habitude s'enracine dans notre vie. Aussi n'est-il pas étonnant que nous souffrions 1000 morts pendant au moins 21 jours. Et comme il s'agit de prendre plein de nouvelles habitudes, c'est-à-dire de réapprendre à vivre sans l'être aimé, nous aurons besoin de beaucoup de 21 jours durant les semaines et les mois qui suivent cette rupture. Nous souffrons physiquement et émotionnellement, parce que mettre en place de nouvelles habitudes quotidiennes sans l'être aimé prend du temps. Et durant ce temps, vous souffrez puisque vous êtes en état de manque. À ce stade, vous savez comment survivre les premiers jours grâce à la connaissance d'un mécanisme d'ajustement vraiment magique, c'est que votre cerveau travaille pour vous naturellement. Laissez-le faire son travail, donnez-lui du temps. Ensuite, vous connaissez la ressource incontournable pour créer une nouvelle habitude, qui est de « patienter » entre guillemets 21 jours. Savoir que 3 semaines apportent des changements même invisibles, à savoir que même quand il ne se passe rien, il se passe toujours quelque chose, dit le livre des changements. Le Yi Jing. Vous avez aussi appris une découverte géniale qui explique votre souffrance post-rupture. C'est-à-dire que vous vivez le sevrage d'un drogué et donc vous souffrez du manque de l'autre. Et enfin, un truc qui vous a ensorcelé puis détruite. Les symptômes, comment fonctionnent-ils? À quoi servent-ils? Une découverte géniale qui explique enfin ce manque insupportable post-rupture. Des chercheurs ont découvert que les sentiments amoureux utilisent la même voie neuronale que les addictions, telles que drogue, alcool, d'où ce manque de l'autre. Mais comment s'est installée cette habituation, cette addiction à l'autre? Pour comprendre pourquoi vous vivez un état de manque à la suite d'une rupture, il faut remonter au début de votre histoire d'amour. Il était une fois. Il était une fois un homme et une femme, ou un homme et un homme. Ou une femme et une femme, bref, deux êtres qui se rencontrent et qui tombe en arrêt devant tant de beauté et de splendeur humaine. Le plaisir est vif et le cerveau veut prolonger ce moment de grâce et de plaisir. Alors, une mécanique des fluides se met en place. Votre système de la récompense se met en branle. Ce qui ensorcelle puis détruit, c'est le filtre d'amour hormonal. Une alchimie, magique semble-t-il, se réalise entre deux êtres au moment de la rencontre amoureuse. En fait, une véritable chimie biologique tout à fait concrète et explicable objectivement se déclenche dans le corps. Guillemets, ouvrez les guillemets. Tous les plaisirs procèdent du même principe. La hausse du débit d'une substance stupéfiante qui vient inonder le cerveau. C'est la dopamine. Fermez les guillemets. Écrit Michel Reynaud dans son livre « L'amour est une drogue douce en général ». De nouveau, ouvrez les guillemets. La dopamine, c'est l'envie d'agir, de créer, d'aimer, de faire l'amour, de découvrir, d'en savoir plus, d'aller plus loin. Toute dépendance résulte d'une stimulation particulièrement forte et répétée du débit de dopamine. Fermez les guillemets. Or, la dopamine augmente considérablement lors de la rencontre amoureuse, puis s'avère nécessairement présente pour la création de la relation amoureuse dans le temps. Plus tard, durant l'acte sexuel par exemple, le désir est lié à l'augmentation de la sécrétion de dopamine. Aux premières sensations de plaisir, toucher ou baiser par exemple, il s'y ajoute une sécrétion de testostérone et de lulibérine, une hormone qui multiplie les effets de la dopamine. Enfin, avec l'orgasme, ce sont les endorphines sécrétées brutalement qui donnent une impression de bien-être, de détente, qui apaisent les douleurs et le stress. En parallèle, le cerveau sécrète aussi de l'ocytocine, molécule de l'attachement, maternel ou amoureux, qui nous donne envie de rechercher le contact de l'autre. L'ocytocine est aussi sécrétée lors de tendresses quotidiennes, ce qui favorise l'attachement et le développement du sentiment amoureux sur la durée. Dopamine, lulibérine, testostérone, ocytocine, endorphine, bref, la recette du filtre d'amour hormonal de votre conte de fées. L'amour active fortement le circuit de la récompense, comme les drogues, le tabac et toute addiction en général. Nous sommes addicts au plaisir sous toutes ses formes, dont l'amour, parce que notre nature humaine est ainsi conçue. C'est ce que la nature a trouvé de mieux pour permettre la perpétuation des espèces vivantes dont nous faisons partie. Nous nous attirons, nous nous rapprochons physiquement et irrésistiblement, nous concevons des petits, nous nous y attachons suffisamment pour les préserver des prédateurs. Bref, nous perpétuons ainsi l'espèce humaine. Vaste programme et vaste responsabilité, à la hauteur de la force irrésistible qui nous rapproche, et de la souffrance atroce en cas de défusion. Et notre cerveau remplit parfaitement son rôle lorsqu'il nous fait souffrir. Alors, lorsque l'autre s'en va, lorsqu'il nous abandonne avec toutes ses hormones dans le corps, comment survivre? Que devenons-nous? Ces hormones nous font souffrir. Elles nous font atrocement souffrir parce qu'elles provoquent le manque. Nous sommes véritablement en manque. Le départ de l'être aimé nous fait vivre le sevrage de la rupture, tel un drogué qui se trouve empêché de consommer sa dose. Pour l'amour, comme pour les drogues, tout ce qui monte peut être amené à redescendre brutalement, comme lorsque l'autre nous quitte brutalement, sans préparation et sans palier pour amortir la chute. Les guillemets, je cite, « La rupture amoureuse est très proche du sevrage de la drogue. C'est un effondrement de ces circuits qui ne sont plus stimulés et stimulants », explique le professeur Reynaud. On éprouve donc le manque, cette espèce de crispation intérieure, d'angoisse, cette impression de ralentissement, de vie triste, grise, sans plaisir ni saveur. C'est une inversion de cette belle mécanique. Fermez les guillemets. Et fin du conte de fées et dur retour à la réalité. Chacun va devoir se débattre dans les raies de son sevrage, en fonction de son histoire, son vécu, sa force de caractère et ses points de vulnérabilité. Et toute rupture engendre la même souffrance, la même douleur partagée par la communauté humaine. Maigre consolation, je vous l'accorde.